mal commencé?
Ah ouais, c'est bon.
Il serait temps de faire ça. Bon, moi c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe Lebleu, Mouvement Larouche. Je vais faire une introduction pour la classe à Pascal où je vais. Excuse Mathieu. Où je vais essayer de couvrir un peu. Pas nécessairement là, tous les faits politiques possibles, mais essayer de donner un sens un peu de qu'est-ce que nous on est en train d'accomplir aujourd'hui et comment on situe ça au niveau. Je dirais au niveau, pas seulement de par rapport à la crise économique actuelle, qui, je pense, qui est très, très mal définie, même selon les grands experts de l'économie, mais plutôt sur un point de vue historique. Qu'est-ce que nous, on essaie d'accomplir? La première chose que je veux dire, c'est que, avant de parler d'inflation, des trucs ennuyants comme ça, dans le développement de l'espèce humaine, à un certain moment donné, il y a eu des gens qui ont eu la conception justement que l'être humain n'était pas un animal. C'est-à-dire que l'être humain n'obéissait pas aux lois de la jungle, par exemple. Et que d'adapter, qu'une société adapte les lois de la jungle, par exemple, et un œil pour œil, dent pour dent, cette société-là allait se mettre à dégénérer beaucoup plus vite qu'une société qui adoptait vraiment un principe, par exemple, fait quand on parle d'une société, on parle justement de gens qui mettent des efforts en commun pour le développement de la société au complet, pas seulement quelques personnes. Mais cette conception-là de dire que les êtres humains, c'était pas des animaux, c'est pas juste venu comme ça. C'est pas que soudainement, on a eu des gens qui sont battus pour le peuple parce que c'était leur petite idée. C'est-à-dire que dans le développement de l'espèce humaine, il y a des certains moments dans ce développement-là où le concept impérialiste, si on veut, le concept de garder l'être humain au niveau d'esclave ou d'animal, ce concept-là recule en arrière. Et le meilleur exemple de ça, c'est souvent, par exemple, une découverte scientifique. Parce qu'une découverte scientifique, c'est pas seulement quelque chose qu'on peut appliquer par la suite, je sais pas moi, la découverte de la radiation, de certains vaccins, par exemple. C'est pas seulement que cette découverte-là va nous être utile, mais c'est que l'être humain prouve que son potentiel est de découvrir comment l'univers fonctionne. Pas au complet. Mais d'être capable d'accroître ses connaissances dans différents champs et accroître justement sa connaissance de l'univers en général. Et aussi justement pour servir de tremplin à ce que d'autres personnes fassent des découvertes aussi et puissent améliorer la société. Et nous, quand on parle d'économie, c'est de ça dont on parle. On parle de cette qualité chez l'individu, cette qualité qui est universelle, qui est chez tout être humain, qui lui permet justement de changer son environnement, de changer sa société, de l'améliorer, de la rendre plus efficace d'un point de vue humain. Et qu'avec ce genre de découverte-là, ce genre de percée-là, ce qui arrive, c'est que justement, la vie humaine prend une toute autre valeur. C'est-à-dire que là, on ne va pas échanger un esclave contre un chameau ou un truc du genre. Même qu'il y a des gens qui se rendent compte que peut-être que ça serait bien que mon esclave apprenne à lire, à écrire, puis figure un paquet de choses, parce qu'il va être encore plus efficace de ce sens-là. Donc, le concept qu'on a de l'être humain change. Mais ce changement-là, ça ne fait pas juste... C'est-à-dire que c'est une bataille politique. Si vous essayez d'enseigner à des esclaves noirs aux États-Unis au 18e ou 10e siècle, dans le sud des États-Unis, c'est touché. Là. C'est une bataille politique. Parce que c'est la façon dont on peut justement libérer les esprits, c'est-à-dire en les donnant un accès aux connaissances. L'esclavage meurt pratiquement automatiquement. Le concept d'esclavage, il ne fonctionne plus. Le maître d'esclave plus d'arguments pour dire, ben non, les Noirs sont plus stupides, ou des choses, des concepts eugénistes qu'on pouvait entendre à l'époque. Donc ça prend le bord. Et graduellement, justement, à travers l'histoire, il y a eu ce concept de nation qui s'est développé, basé toujours sur le même concept d'être humain. C'est-à-dire qu'une nation, vous avez une institution autre, disons, parallèle à un système impérial. Vous avez le roi, la reine, il y a un pouvoir arbitraire. C'est le sang bleu ou je ne sais pas quelle connerie qui fait que ces gens-là sont au pouvoir. Alors que là, vous avez l'idée d'un État-nation où il y a un pouvoir décidé par le peuple et pour le peuple dans le but de développer cette même qualité chez l'individu. Et on a un très bon exemple de ça avec la Constitution américaine, par exemple, qui était une bataille directe contre le système impérialiste, le système britannique impérialiste. Et vous aviez deux concepts. Il y avait le concept de John Locke, que peut-être déjà entendu parler. Il est reconnu, il est malheureusement reconnu comme étant le père de la Constitution américaine, ce qui est faux. John Locke est un raciste avoué qui parlait de trois concepts. Il parlait de la vie, de la liberté et de la propriété comme étant les trois qualités, si on veut, appartenant à l'être humain. Donc, vie, liberté et propriété. Et si vous êtes dans un système d'esclavage, ben, le mot propriété, c'est pas seulement la table ou votre maison, mais c'est aussi les esclaves que vous avez. Okay? Donc, et aussi, ben, l'esclave qui n'a aucune propriété, ben, n'est pas un être humain, selon John Locke. Mais John Locke, lui, ça n'a rien à voir avec la Constitution américaine. C'est plutôt la Constitution de la Caroline du Sud, qui à l'époque était un État, justement, à l'époque des 13 colonies, ou avant ça même. Vous aviez Locke qui tentait par différents moyens de garder et de promouvoir l'esclavage à travers les États-Unis. Mais au contraire, c'est-à-dire que dans la Constitution américaine, vous avez un concept qui vient d'un penseur allemand qui s'appelait Leibniz, Gottfried Leibniz, qui parlait de vie, liberté et de poursuite du bonheur. C'est-à-dire que c'est que le concept de propriété en soi n'a pas vraiment de valeur, mais que l'idée est aussi que le concept de poursuite du bonheur était quelque chose de très spécifique. C'était pas la poursuite du bonheur des baby boomers. Jouer une décapotable avec une femme de 20 ans dans ma voiture. Et ça, c'est pas la poursuite du bonheur. C'est pas le concept dont on parle, mais c'est un concept où cette poursuite du bonheur est directement liée à ce dont je parlais au début, cette qualité chez l'individu de faire des percées, d'être capable de découvrir comment fonctionne l'univers, d'appliquer ça et de continuer, de perpétuer ce mouvement-là. Et que l'idée de bonheur, qui n'est pas juste un truc émotif ou sentimental, mais c'est qu'il y a un bonheur, c'est-à-dire vous avez un développement de l'espèce humaine continu. Et avec lequel on arrive justement à briser beaucoup justement les inégalités, soit les inégalités au niveau matériel ou au niveau intellectuel ou à tous les niveaux. Et la bataille, justement, la bataille dans laquelle on est, c'est que ce principe-là est en. Il est menacé. Si vous parlez de. J'avais une discussion justement hier, on était à métro Béré-UQAM, mais. Il y avait un jeune ami, une jeune personne à qui je parlais, qui se plaignait du comportement de ses amis, parce que lui, il pensait que c'était une bonne idée, justement, d'utiliser des machines pour faire le travail à la place d'individus, puis permettre à ces individus-là de se développer, d'aller à l'école. Le meilleur exemple, c'est si vous prenez les nations pauvres, par exemple en Afrique. Vous avez quelqu'un qui marche 8 km pour aller chercher de l'eau, sa journée est pas mal foutue. Donc, si vous avez un système qui va remplacer ça, permettre à l'individu d'aller chercher de l'eau, ou d'aller chercher de l'eau en se levant le matin pour aller ouvrir le robinet, tout simplement, ben, la personne elle-même se découvre un temps supplémentaire dans lequel il y a un développement qui peut se faire de cette personne-là, un développement sérieux au niveau cognitif, au niveau intellectuel et tout ça. Et cette personne se plaignait parce que quand elle parlait de ça avec ses amis le trouvaient un peu bizarre. Ben, ses amis avaient une conception très pessimiste de la société en disant, ben là, ça va pas arriver, là. Ben, rêve pas. Alors qu'il n'est pas question de rêve ou d'utopie, il est question d'un principe très simple, principe économique, un principe humain, de dire, ben, tu veux pas que les gens. Imaginez les étudiants, prenez les 40 000 étudiants à l'UQAM, forcez-les à produire leur propre nourriture, ben vous venez de détruire les 40 000 étudiants, hein. Il n'y en a plus d'étudiants. Ils s'occupent de leur bouffe et c'est tout. Là. Ils prennent un peu d'argent pour les saouler la fin de semaine, c'est tout. Excusez. Donc, il y a des principes qui sont bons pour que certaines personnes se rappellent comme étant bons, ou une vague connaissance que c'est des bons concepts. Mais il y a souvent aussi une réintroduction de concepts qui justement datent ou qui appartiennent à cette tendance plus impérialiste, on va dire. Cette tendance qui va, au lieu d'élever la population humaine, va essayer de la ramener au plus bas niveau possible. Et l'Empire britannique est un bon exemple de ça, c'est leur comportement envers tout ce qui n'était pas anglais était vraiment un comportement raciste, colonialiste, où le développement de la personne n'était pas permis, sauf une certaine élite qui allait travailler pour la même élite. Et c'est aussi ce qu'on a vu avec le mouvement nazi. Et c'est encore plus frappant dans le mouvement nazi parce que c'est en Allemagne. Et l'Allemagne, à cette époque-là, avait beaucoup de problèmes économiques dû à la Première Guerre mondiale, mais avait sûrement l'une des meilleures cultures qu'on pouvait imaginer à cette époque-là. C'est-à-dire le développement scientifique, développement culturel, Bach, Beethoven, Mozart. Les gens baignent là-dedans. Donc, vous avez une culture beaucoup plus développée. L'allemand est une langue qui est très puissante, qui peut transmettre de très grandes idées, contrairement à une langue qui serait plus, donc plus arriérée, moins bon vocabulaire, moins bonne syntaxe. Mais l'idée, c'est que vous avez une culture qui est une bonne culture. Et là, vous avez l'introduction de concepts tout à fait opposé. Et vous avez Hitler avec son espèce de recherche de l'homme parfait, l'Aryen parfait, qui est une valeur qui est surtout biologique, pas intellectuelle, mais vraiment un être biologique. C'est de retourner à la pureté de la race. Sont allés au Tibet, sont allés un peu partout pour essayer de retrouver cette valeur biologique, vraiment, qui n'a rien à voir avec l'intellect. Puis vous avez justement ce concept qui est impérialiste, donc qui n'est pas né avec les nazis, mais qui est étudié par les nazis, qui est l'eugénisme. C'est-à-dire que vous avez des classes, des races qui sont supérieures à d'autres, selon non seulement les nazis, mais aussi beaucoup de gens en Europe à l'époque. Ce qu'on appelle le darwinisme social, le combat des races humaines pour le développement de je sais pas quoi. Une des choses que les nazis ont fait, dont on a parlé beaucoup, c'est en 1939, vous avez eu l'introduction d'une loi, une loi secrète par Adolf Hitler sur la nécessité d'introduire l'euthanasie dans le but de supposément sauver des coûts, parce qu'on est en guerre pour sauver de l'argent. Donc, ils ont introduit ce concept d'euthanasie. Et comme Hitler le disait, c'est-à-dire de se débarrasser des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Donc là, ce que vous avez, si vous avez des handicapés, des personnes âgées, des pauvres, parce que l'eugénisme implique que si vous êtes pauvre, c'est peut-être parce que vous avez un problème ici, ou dans votre, peut-être que vous êtes biologiquement inférieur, justement parce que vous êtes pauvre. Donc, et là, vous avez eu une série d'euthanasies. Je pense que la première année, c'était 70 000. La famille recevait un faux certificat de décès qui disait disait, il est mort des causes naturelles. C'était justement une attaque sur cette culture allemande-là, et une attaque directement sur le concept universel de l'être humain comme étant justement un être créatif et qui avait une valeur qu'on disait sacrée, parce que c'était l'idée de le concept scientifique, si on veut, d'être créé à l'image du créateur, l'image de Dieu. C'est cette capacité chez l'être humain de faire ces découvertes-là. Donc, l'euthanasie réintroduisait cette idée d'utilitarisme, cette idée que l'être humain, s'il n'est pas utile, ça n'a pas tellement de valeur. Combien est-ce qu'il peut lever au bench press, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez des personnes âgées avec certains problèmes médicaux qui étaient assassinées, qui étaient euthanasiées pour supposément le bien de l'État. Et ce qui arrive avec ça, c'est justement c'est que vous avez un concept qui vous avez une nation qui adopte un concept qui est complètement contraire au concept de nation. Si une société décide de détruire, d'annihiler une certaine section de sa population, bien, disons que l'idée du bien-être général ou l'idée de la poursuite du bonheur, on s'en fout, là. L'idée, c'est d'être utile, c'est du vieux magané, coûter cher. Vous avez le cancer, peut-être vous allez vivre 2 ans, mais bon, est-ce que ça vaut la peine d'investir après 2 ans? On ne sait pas. Donc, imaginez une nation, justement, une nation, on peut prendre comme celle des États-Unis, qui endosserait ce genre de politique-là. Qui dirait, OK, là, il faut sauver des fonds. La principale idée, c'est qu'on veut sauver des fonds, donc il faut se débarrasser d'un pan de notre société. Ça, c'est justement, c'est de retourner au nazisme. C'est aussi de retourner à l'impérialisme. Et c'est pour ça que Larouche, hier au soir, a lancé un message comme quoi Obama venait de, je pense, venait de briser un record d'incompétence en devenant éligible à la destitution après peut-être quoi 5 mois étant au pouvoir. Même George Bush, on a attendu plus que ça. Oui, parce que justement, Obama, les gens en ont parlé, les gens en ont vu un peu dans les médias, mais il est question de réforme dans la santé. Où évidemment, les médias disent pratiquement rien de cette réforme-là. Quand vous regardez la réforme, vous regardez les gens qui ont fait la réforme, ce que vous voyez, c'est justement, c'est comme la loi T4 de Adolf Hitler. Ce que vous avez aux États-Unis, proposé par Obama, pas seulement ses conseillers, là, Obama lui-même, donc il est complètement conscient de ce qu'il fait, ça décide de proposer, afin de couper environ 2 000 milliards de dollars dans la santé, d'avoir un groupe, une espèce de conseil d'experts qui décide d'où va l'argent, qui décide comment on va couper. Et ce groupe-là n'a pas le droit de réviser le budget à la hausse. Donc, s'il reçoit un budget, il ne peut pas dire « on faudrait ajouter des fonds ». Il peut seulement couper ou le laisser comme ça. Ce groupe-là doit après discuter avec le président qui après doit proposer la loi au Congrès pour qu'elle soit votée. Mais le hic, c'est qu'il y a une autre personne là-dedans. Il y a une autre personne qui, lui, se trouve au-dessus du Congrès, au-dessus du Sénat. Et ça, c'est ça une dictature. C'est-à-dire que quand votre Congrès, quand les représentants n'ont aucun rôle sérieux à jouer, où toutes leurs décisions peuvent être éliminées par une personne, vous avez une dictature. Surtout quelqu'un qui n'est même pas élu, c'est quelqu'un qui est choisi par l'administration. Et le but, ben, c'est ça. Le but, c'est d'utiliser le système anglais. Le système où justement on amène ce qu'on appelle le concept d'efficacité des coûts. Donc, chaque personne est étudiée à dire est-ce que ça vaut vraiment la peine. Il y a des histoires un peu débiles, mais c'est bon. Vous avez Rahm Emanuel, qui est un des conseillers, qui en 1996 avait écrit que justement les gens atteints d'Alzheimer, les gens atteints de maladies dégénératives, fatales ou autres, ne devraient pas recevoir de soins du tout. Et vous avez cette espèce de mathématique un peu sadique, ou si on veut, une approche très, très sophiste. Je vais donner l'exemple. C'est un exemple donné par John Weinberg, qui est un de ses nouveaux conseillers dans l'administration d'Obama. Et sa conclusion, c'est un étudiant. C'est un peu débile. Mais je vais mettre au tableau, mais c'est tout simplement. C'est pour donner un peu une idée de comment ces gens-là pensent. Parce que oui, ces gens-là, bon, ils pensent d'une façon que je vais montrer très, très dérangée. Mais ça se retrouve aussi dans la population. J'ai rencontré monsieur, madame, tout le monde qui souvent se retrouve à penser de la même façon que ces gens-là. Je vais juste donner l'idée, mais si vous prenez deux personnes, personne A, personne B, et mettons, en 2007, les deux personnes apprennent qu'ils ont le cancer. Première personne, on va la traiter. Donc, mettons qu'on va investir. On investit de l'argent dans cette personne-là, la personne meurt en 2009. Personne B, le cas B, on va pas investir du tout. Et ça donne que la personne meurt aussi en 2009. Donc, Rahm Emanuel de dire, pas Rahm Emanuel, mais John Weinberg de dire, ah ben, vous voyez, ça, on aurait pu sauver ça, on aurait pu sauver cet argent-là, parce que de toute façon, le résultat aurait été le même. Donc, à quoi bon investir, sachant que la personne va mourir dans une période courte? Ça, c'est ce qu'on appelle le sophisme. C'est d'arriver à faire des arguments d'une façon. Bon, on ne s'intéresse pas vraiment à la vérité, on essaie de faire un argument. Et que oui, on peut dire, ben oui, le résultat est le même, à quoi bon investir? Mais peut-être que justement, peut-être qu'en investissant, on a réussi à allonger la vie. Peut-être que la personne B avait pu vivre jusqu'à 2015-2016 si on avait investi. Mais ça, il n'en parle pas. Mais ce sont des sophistes, des behavioristes. Un groupe d'économistes précis. Et bien sûr, il y a d'autres rapports. On a écrit un dossier là-dessus. Assez détaillé avec un peu la mentalité de ces personnes-là, voir un peu pourquoi la roche est si dure et pourquoi on parle de nazisme. On parle pas seulement de. C'est pas des gens qui essaient de faire de l'argent ou quelque chose comme ça, là. C'est une politique qui est anti-nation et qui rend Obama éligible à la destitution. Et qu'il faut absolument, justement, que ce soit au Canada ou ailleurs, ou en Allemagne, peu importe où vous êtes, faut absolument arrêter cette proposition au niveau de la santé, parce que sinon vous allez avoir un précédent, justement, vous allez avoir une attaque continue sur le concept de nation, de république. Et si vous perdez le concept de bien commun ou d'intérêt général ou de poursuite du bonheur, ben les nations ne vont pas survivre. Donc ça, c'est pour ça. Donc, on se concentre beaucoup là-dessus, mais je voulais rajouter juste quelque chose au niveau de l'économie, parce que on a eu aujourd'hui le gouverneur de la Banque du Canada qui s'est mis à. Enfin, qui nous a annoncé avec son plus beau sourire que la récession était terminée.
Oui, j'ai vu ça.
Bon. Ben. Oui, ce qui est amusant avec ces gens-là, c'est pas des mauvaises personnes. Ils sont un peu égarés, mais. un peu beaucoup. Mais, écoutez, ce que nous, dont on parle, parce que dans les derniers jours, et surtout dans le dernier document que M. Laroche a écrit, où il explique qu'afin de se sortir de cette crise dans laquelle on est, crise qu'on pourrait appeler crise économique, mais qu'on pourrait aussi appeler une crise existentielle. C'est pas nécessairement qu'on. C'est pas que les chiffres vont à la baisse, seulement c'est que vous avez des pans de société qui sont en danger de mort. C'est-à-dire, vous avez déjà lu dans vos livres qu'il y a des sociétés, des fois, qui disparaissent. Soit il y a de l'eau, de la glace, ou une guerre, ou il y a la variole, ou je sais pas quoi. Ben, on est dans ce même genre de situation. Dans une situation où les sociétés elles-mêmes sont menacées. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut complètement repenser la façon dont on approche l'économie en soi. Je vais commencer juste par donner un paradoxe, si on veut. Parce qu'il dit. Je vous la citation en anglais. Okay. Mark Carney, il parlait avec CBC, puis il dit: We are on track for the recovery, both in Canada and globally. Okay. Donc, ça c'est clair. Après ça, il dit: For many Canadians, it's not a recovery until they start getting their jobs back. And on that score, we could still be in for a long wait. Don't break out the champagne yet. OK. Parce que si vous fouillez sur le concept d'économie, vous allez retrouver justement deux. On pourrait appeler deux tendances différentes. Donc vous avez la tendance des économistes qui vont dire ah oui, nos mesures, nos statistiques démontrent que la reprise va se terminer le prochain trimestre. Par exemple, la façon dont ils définissent la récession, c'est simplement que vous avez. Si vous avez deux trimestres qui. Durant deux trimestres, vous avez une baisse économique. Donc, vous avez une récession. Puis, si après le troisième quart, ça reprend, ben là, vous êtes correct. Là, vous n'êtes plus dans la récession. Mais le problème, ben, disons le paradoxe, c'est que vous avez ça, vous avez ces instruments monétaires-là, ces mesures statistiques. Puis vous avez passé là, à la personne qui se demande, ouais, mais la reprise est là, mais les jobs sont où? Puis c'est une maudite bonne question, me semble. Parce que si vous avez une reprise, vous n'avez pas d'emploi, ben, je sais pas, me semble, ça prend des emplois pour subvenir à ses besoins, ou tu sais. Mais pour lui, ça a l'air d'être. Ah, on est dans la reprise, mais les emplois, faut attendre. T'sais. On va attendre. Ça va être long, ça va être long. Bon, c'est de ça dont il parle. Ah, et puis aussi le dollar. Bon, ça, c'est une chose, le dollar canadien qui est trop haut. Parce que si vous allez, par exemple, ça, c'est à propos de la Banque du Canada. Puis j'ai sorti un document sur le. Provenant du. Ça s'appelle en anglais le Canadian Congress, Canadian Labour Congress, donc le Congrès du travail au Canada. Et ça, c'est un syndicat. Et eux, ben justement, leur argument, c'est de dire, ben non, on est encore en pleine récession parce que le taux de chômage est beaucoup plus haut que ce que les gens disent. Puis ils ont un peu raison sur certaines statistiques, dans le sens où le gouvernement. Parle qu'on a un chômage de 8, je pense que c'est 8,3%. Puis ils vont jusqu'à dire non, ça va jusqu'à 11%. Parce que si vous regardez vraiment la façon dont sont faites les statistiques du gouvernement, ben ils avaient un paquet d'erreurs. C'est-à-dire, vous avez, comme par exemple, comme ils font aux États-Unis, vous avez les gens qui sont sans emploi mais qui ne cherchent plus d'emploi, ils sont découragés. Ben, aux États-Unis, puis ici, ils mettent ça en dehors de la classe des sans-emploi. C'est comme une classe qui n'est pas comptée nulle part. Il faut essayer de faire baisser justement les chiffres. Mais il y a plusieurs classes comme ça. Il y a aussi la classe des gens qui travaillent des emplois partiels, genre à moins de 20 heures. Ils ne sont pas considérés comme des chômeurs, mais ces gens-là ont des emplois nuls. Et souvent un salaire beaucoup plus bas que ce qu'ils avaient avant. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder comme ci, comme ça. Pour essayer de voir ben, qui a raison entre les deux. Est-ce que c'est le syndicat? Est-ce que c'est la banque? Ce qu'on pourrait poser vraiment comme premier fait, Ou si on veut pas, je donne un exemple un peu de. Mais pourquoi La Roche, par exemple, va dire que les économistes sont complètement incompétents ou font partie d'un culte? Pas juste qu'ils sont incompétents, qui vraiment, c'est. T'as l'impression que tu te demandes, t'as l'impression qu'ils sont. Qu'ils ont un cerveau contrôlé par quelqu'un. Puis je vais donner l'exemple, c'est Larry Summers. Vous connaissez Larry Summers? Larry Summers, c'est sûrement le conseiller principal au niveau de l'économie dans l'administration Obama. Et c'est pas n'importe qui, c'est un expert, connaisseur. Il a donné une conférence récemment à l'Institut Peterson sur l'économie internationale. Puis il dit que la récession est terminée. Lui aussi, il dit ça. Puis sa mesure, il dit, je vais citer ça en anglais, il dit, take one example as an indicator. Google searches for the term economic depression was up fourfold from their pre-crisis level. Now such hits have returned to normal levels. En français, c'est dit les recherches sur Google, les recherches qui ont été faites sur le terme dépression économique sont revenues à leur niveau normal. C'est-à-dire que pendant la crise, là, c'était genre ça a monté, ça a été multiplié par 4. Là, les recherches sur Google, c'est revenu normal. Donc, la récession est finie. Parce que les gens ne cherchent pas sur Google, il n'y a pas de récession. Tout le monde est d'accord avec ça. Hein?
On n'a peut-être plus Internet.
C'est ça, plus à le payer. Là. OK, mais ça, regardez en tête, ça, c'est le premier conseiller économique d'Obama. Quelqu'un qui a des diplômes. Des stacks de diplômes émérites, puis whatever. Oui, il était président d'Harvard en plus. OK, puis une autre chose qui parle aussi, parce que quelqu'un lui a posé une question, tu sais, ben ouais, mais qu'est-ce qu'on fait qu'en est-il des firmes, des compagnies qui sont mis à licencier des gens et qui n'ont pas engagé, tu sais? Là, Summer répond, ben il dit, perhaps an expectation that the recession would be lengthy has also contributed to this behavior of the employers. Donc, l'employeur, pensant que la récession allait être longue, bien, a licencié plus de monde qu'il prévu. Dans le fond, c'est la faute de l'employeur. Pour ces employeurs, ils ont licencié trop de gens. Ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est le problème, c'est l'employeur qui a décidé de licencier trop de gens. Fait que vous êtes là, vous écoutez ça, mais pourquoi ils ne me donnent pas des stats ou quelque chose, tu sais? Au moins. C'est des espèces d'arguments bizarres faits par les gens en charge. Est-ce qu'on pourrait regarder. Non, ça, c'est pas important. Est-ce qu'on pourrait regarder, disons, de l'autre côté, si on regarde un peu plus au niveau physique? Je ne veux pas perdre personne dans les statistiques, mais je pense qu'il y a une statistique qui est plus importante, c'est. Le fait que, bon, les gens se rappellent là, qu'on a essayé de sauver les banques. Il y a eu une tentative là, par le Congrès, pas le Congrès, mais la Réserve fédérale, le Congrès aussi, là, puis d'autres nations aussi, d'essayer de sauver les banques, injecter de l'argent comme ça, pas d'allure. La moyenne est entre, je pense, entre 10 et 20 000 milliards de dollars qui auraient été injectés dans les banques au niveau international, là. Par le gouvernement aux États-Unis. Mais une chose qui ressort maintenant, c'est que les États-Unis, c'est-à-dire que pratiquement tous les États des États-Unis sont en faillite. Donc, la Californie, par exemple, qui a un déficit de 25 milliards, et que là est vraiment en train de couper dans les travaux, pas les travaux, mais les employés du secteur public, dans les écoles, les universités, les écoles, les collèges communautaires aussi, le domaine de la santé, c'est bien sûr, les prisons. Je voulais dire, est-ce que vous avez une chance en Californie que 27 000 prisonniers soient libérés à cause de cette chose? Politique. OK. Je J'imagine que c'est des crimes légers qui sont commis, j'espère. Puis l'autre, c'est il y a aussi une somme qui va être gelée, qui va être prise, dans le fond, du budget des villes, des municipalités, de la Californie en général. Pour les écoles, par exemple, pour le syndicat des professeurs en Californie, on parle de 20 000 professeurs qui vont perdre leur emploi. C'est-à-dire que les gens parlent de scraper le cours d'éducation physique, par exemple. Fait que, imaginez, vous avez un État, puis là, l'estimation du déficit général de tous les États mis ensemble, c'est environ 230 milliards. Mais contrairement aux banques, si vous êtes un État, il va falloir vous battre pas à peu près pour être capable de recevoir certains fonds. Et même que maintenant, ce qu'Obama est en train de faire, c'est d'utiliser cette banqueroute des États pour menacer les gouverneurs pour qu'ils appuient son projet de loi sur la santé. Vous voulez de l'argent, ben appuyez mon projet à moi, puis mon projet de la santé. Fait que en termes d'emploi, on perd énormément d'emplois, mais selon Mark Carney, ça peut être tellement important. On peut avoir une reprise. On peut être sorti de la récession quand même. C'est pas ça qui va nous énerver. Là. Parce que de toute façon, il y a des solutions à renflouer les banques, à renflouer les gouvernements. Et Oakland, qui est une ville en Californie, qui justement se dit, ben pourquoi ne pas taxer la drogue? Et peut-être que les gens ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais quand je parlais tantôt de combat pour un État-nation, parce qu'aujourd'hui, les gens, des fois, t'as l'impression que la drogue, c'est comme légaliser la drogue, l'euthanasie, c'est comme le genre les nouveaux stades de la liberté humaine. Le combat pour les droits humains, c'est on a le droit de prendre la drogue, puis on a le droit de mourir quand on veut. J'ai des petites nouvelles, là. Non, c'est pas ça. Mais c'est plutôt que... il y a plusieurs façons de détruire une nation et on n'est plus à un niveau... c'est-à-dire que, oui, on peut détruire des nations au niveau militaire en attaquant... on a vu ça avec l'Irak et tout ça. Mais comme je dis, si vous détruisez la valeur humaine, c'est la meilleure façon que vous avez pour détruire une nation. Peut-être pas physiquement, la nation reste là, mais les individus sont incapables de penser et le gouvernement ne défend même pas sa propre population. Il s'engage dans... la poursuite du plaisir, la poursuite de l'argent, la poursuite de tout ce truc-là, plutôt que la poursuite du bonheur. Et puis c'est justement ce qui se passe, par exemple, en Amérique latine, c'est que les nations du Mexique et l'Amérique latine se battent pour leur vie contre les narcoterroristes. Parce qu'un narcoterroriste, c'est des gens qui kidnappent, c'est des gens qui tuent, c'est des gens qui prennent en otage, c'est des gens qui mettent des populations entières sur la drogue. Les gens deviennent dépendants ou la population dépérit graduellement à cause de ça. Et c'est vraiment une guerre. C'est-à-dire que si vous êtes dans la police au Mexique, vous savez qu'il y a bien des gens qui veulent vous tuer à cause justement de cette guerre-là qui est là. Et récemment, vous avez eu plusieurs meurtres. C'est-à-dire que les narcotaristes ne vont pas juste tuer comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont tuer les gens dans le militaire et dans la police. Dans le but justement d'affaiblir la nation. Et ce qui se passe, c'est que on pourrait penser que c'est seulement la nation contre, dont le Mexique contre un groupe de narcotaristes. Mais non, c'est que vous avez des institutions financières qui vont défendre les narcotaristes. Comment ils font ça? Bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils attaquent la nation elle-même, comme le Mexique, par exemple. Ils vont se faire attaquer par une série d'ONG qui appartiennent tous à George Soros, un personnage dont on peut discuter, mais qui est reconnu pour ses activités spéculatives puis ses activités pour nuire aux nations, carrément, de différentes façons. Et essayer de forcer Enfin, d'attaquer la nation en disant que la nation ne respecte pas les droits humains dans cette dans leurs interventions contre les narcoterroristes. Mais bon, que les narcoterroristes kidnappent, violent et tuent. Puis dans les derniers jours, il y a eu 16 membres de la police de Mexique qui étaient assassinés. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est pas, ça on ne va pas critiquer ça. Et que là, vous avez justement un leader, le leader des narcoterroristes, qui dit, ben moi, je suis prêt à discuter d'égal à égal avec le président du Mexique. Avec le wow. Okay. De mettre une population sur la drogue, c'est la meilleure façon de détruire cette nation-là. Tout le monde est heureux. Hein. Personne n'a posé de problème. La vie est belle. Donc, ça, c'est un autre aspect aussi, parce que dans le fond, la crise dans laquelle on est... attends, ce que j'ai... Ouais. Je pense qu'un des gros problèmes, c'est que afin de comprendre cette crise-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient la crise comme ayant débuté genre en 2007. 2007, c'est là où tout a sorti. Les banques se mettaient à crier, les banques fermaient. Tous les dirigeants politiciens du monde devaient se rencontrer plusieurs fois par mois pour discuter de cette crise-là. Mais qu'est-ce qui se passait avant? Je pense que c'est une bonne question à se poser. Est-ce que c'est juste que tout allait bien et puis m'en est tout a tombé? Est-ce que ça date de d'avant? Ou... Et ben la réponse à ça, c'est que au fond, Larouche parle de crise économique depuis les années 60. Pas que tout allait bien avant, non plus. Mais depuis les années 70, où on est dans une crise vraiment où la nation est menacée grâce à plusieurs changements qui ont lieu au niveau financier, au niveau des institutions financières où la spéculation a pris beaucoup de place. C'est-à-dire que le concept de nation est un concept que si on ne se met pas dans la tête de le défendre, on va toujours avoir ce genre d'attaque, que ce soit au niveau économique ou au niveau... militaires, les drogues, peu importe. Et si on regarde, par exemple, sur notre site, il y a un nouveau vidéo qui a été fait sur Franklin Roosevelt. Et ce que Franklin Roosevelt a fait dans les années 20 et 30 au niveau de justement du système de santé. Et ceux qui pensaient qu'Obama c'était le nouveau Franklin Roosevelt, réveillez-vous, allez voir le vidéo, parce que c'est tout à fait le contraire. Et même que ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à aujourd'hui, vous avez des experts qui vont vous dire combien d'argent vous pouvez sauver, vous pouvez épargner en ne distribuant pas de fonds, de services, de santé. Mais Roosevelt débute, où il donne un discours dans les années 20, où il explique justement comment, en aidant, en réinsérant une personne dans le système normal de la vie sociale, comment cette personne-là peut justement créer des richesses. Si une personne a des problèmes au niveau des jambes, des articulations, le polio, je ne sais pas quoi, ok, fine, mais voici, si on arrive à sortir cette personne-là de sa prison, si on veut, voici comment on va, à combien de richesses ou quel niveau de richesse que cette personne-là va être capable de générer. Donc déjà là, c'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire que vous avez un dirigeant qui dit, on va sortir ces gens-là de leur situation. On va les aider. On ne va pas leur dire, tu coûtes cher. Prends la pilule du bonheur. Poursuite du bonheur, pas la pilule. Roosevelt est quelqu'un qui lui-même a été victime d'une maladie, la polio. Et à cette époque-là, la polio pouvait tuer. Il a réussi à s'en sortir, mais c'est quelque chose qui l'a affecté énormément au niveau émotionnel, au niveau aussi intellectuel. Parce qu'à cette époque-là, vous aviez ce qu'appelait les maladies de la pauvreté. Vous aviez la série, c'est la, bon, vous aviez la polio, vous aviez la malaria, la tuberculose, la typhoïde, la pneumonie, même la diarrhée. La diarrhée pouvait être mortelle dans certains cas, ben, comme, en, comme en, dans certaines places en Afrique aujourd'hui. Et ce que Roosevelt a lancé, avant même d'être président, quand il était gouverneur à New York, c'est justement c'est une mobilisation tout azimut au niveau scientifique pour mettre un terme à ces maladies-là. Puis justement, donner justement ces maladies-là un taux de mortalité bénin. Mais l'approche est complètement opposée. C'est une approche qui dit que chaque vie vaut la peine d'être vécue et que si on se donne les moyens, on peut sortir ces gens-là de leur situation. Pas obligé de. C'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut couper. C'est pas parce qu'on est en crise qu'il faut donner de l'argent aux banques parce qu'ils en manquent. Si vous faites ça, c'est parce que vous ne savez pas c'est quoi l'économie. Et si vous revenez au principe de ce que Roosevelt a fait, par exemple, ou aussi de ce que LaRouche propose, parce que ça veut dire un gars comme LaRouche qui parle non seulement de créer des emplois dans l'infrastructure, dans l'industrie, mais qui parle aussi de projet de coloniser Mars. Et vous dites, ben, c'est quoi le rapport, t'sais? Pourquoi ne pas se préoccuper des problèmes sur Terre avant d'aller en créer sur Mars? Oui, bonne question. Mais si vous regardez le programme d'Apollo, ben justement, c'est pas. On n'est pas allé tellement longtemps sur la Lune anyway. T'es allé quoi, une journée, deux jours? Petite fin de semaine. Fait que le but, c'est pas de dire j'ai mis mon pied sur la Lune, tu sais, puis allez chier les Russes, puis on est meilleur que vous autres. Parce que tout le processus a créé justement cette richesse dont je parlais au début, cette richesse qui fait que l'être humain est vu comme étant, non pas un animal, mais comme étant quelque chose dont la valeur est inestimable. Où les percées ont permis justement de sortir des gens de leur prison physique ou intellectuelle. Et que ça n'a rien coûté dans le fond. Ça a pris des efforts. C'est-à-dire que mais non, c'était pas un. On n'est pas en dette là, à cause de ça, même si c'est le contraire. Mais vous avez une approche qui dit que, ben. Que oui, dans le fond, si on se tient ensemble, si on donne. Si on garantit la même valeur à chaque individu, et que oui, on peut. En fond, on peut élever la société au complet, pas juste ceux qui ont des problèmes, mais toute la population au complet. Alors. Et que justement, il y a un côté où, si on veut, la bonté, des choses comme la bonté ou comme, je dirais, le dévouement de soi, peuvent arriver à inspirer une population. Et il y a aussi quelque chose d'autre qui inspire la population, qui est lié à ça, qui est justement les arts, la culture. Pas n'importe quelle culture, par exemple. Il faut regarder au niveau de ce qu'on appelle la culture classique, surtout au niveau de la musique, au niveau de la peinture, mais c'est-à-dire une démonstration de la créativité humaine qui justement va aider en même temps à générer cette créativité au niveau de la science. Des gens comme Albert Einstein. Si je jouais du violon, c'était pas par hasard, c'était pas parce que c'est leur petit péché mignon. J'aime ça jouer du violon de temps en temps, mais c'était que le côté science, le côté musique ou art, ces deux côtés-là sont liés ensemble, font un en réunissant ce concept de créativité humaine là, qui est le concept, qui est le principe, qui est la base de toute économie humaine. Donc, si vous retombez sur Mark Carney un jour, ben, essayez de lui parler un peu de ça pour l'aider, le pauvre. Et faites la même chose avec les gens aussi du Canadian Labour Congress. C'est pas des mauvais gens, mais c'est un peu notre travail, nous. C'est d'éduquer ces gens-là afin qu'ils puissent nous aider à vraiment renverser la situation et mettre les bases pour qu'on sorte de cette situation-là le plus tôt possible. Je vais terminer là-dessus. Peut-être C'est pas une, peut-être une question ou deux, tu sais. S'il n'y en a pas, je vais juste laisser mal.
Ouais, une question.
Mm-hmm.
Ouais, vous avez parlé de la crise, la date exacte de la crise, mais vous avez un peu dévié le sujet à ce propos.
Quand je parlais de la date de,
oui,
la crise?
De la crise, oui. Le moment exact où ça a commencé. Et comment les choses étaient avant qu'on entre dans la crise?
Ben, je sais pas si. Dans le fond, je sais pas si c'est une bonne idée de parler de date fixe. Parce que pour beaucoup d'économistes, c'est oui, c'est l'effondrement de Bear Stearns ou l'effondrement de une banque en quelconque qui pour eux, c'est ça, mais ça varie beaucoup, mais je pense pas que c'est une bonne approche. Parce que ce qu'il faut regarder, c'est plutôt justement c'est comment ces deux dynamiques-là, ces deux visions de l'espèce humaine, si tu veux, interagissent. Parce que je pourrais dire que c'est quand, par exemple, que quand Franklin Roosevelt est mort, c'est là où ça a dégénéré, tu vois. Mais le principe impérialiste était toujours là. Quand Roosevelt était là, les choses allaient. Il y avait une progression, développement des économies, développement au niveau de la science et tout ça, c'était faramineux. Ça a continué même après sa mort. Puis il y a eu le phénomène, la destruction du système financier Bretton Woods en 1911. Donc il y a certains points comme ça. Mais le problème, c'est que la plupart des économistes vont dire que tout allait bien jusqu'à 2007. Pas de problème. Il y a eu la crise des années 30, mais après, tout allait bien. On a une petite récession là. Blablabla. Puis là, en 2007-2008, là, ouf! Mais ils sont obligés, parce qu'ils disent ça parce qu'ils sont obligés de répondre à la réalité. Parce que tout le monde leur dit, merde, c'est la crise économique. Ah oui, reprise en 2011. Ils sont pas sûrs de rien, là. Mais il faut qu'ils se prononcent. Parce que les gens vont dire, ben là, c'est toi l'expert, là. Ils vont pas dire, la crise va continuer pour un autre 10 ans, là. Parce qu'ils savent pas vraiment, là. Là, mais... Donc, c'est un peu pour ça, je suis retourné dessus dans les années 60. Mais... Ben, c'est évident que la façon de s'adapter aujourd'hui, l'approche économique, c'est complètement faux. C'est 2008-2007... Mais c'est de regarder justement ces deux dynamiques, comment les deux dynamiques interagissent et comment justement on peut reprendre la direction d'une. Reprendre la dynamique du développement humain et la remettre comme étant la primordiale.
Moi, peut-être pas être d'accord avec moi, mais tu sais, l'ancien système aux États-Unis, le système qu'il y avait aux États-Unis santé, c'était le capitalisme, les gens pauvres. Il mourrait aussi, même si t'avais
ouais.
Certains sophistes dans le même sens. Même avec le nouveau, qu'est-ce que Obama veut mettre, t'avais un peu la même chose de côté.
Ben, c'est que, il y a une différence entre, mettons, t'es dans une crise, puis comme t'essaies, faut que tu coupes, tu vas couper des affaires, puis tu sais pas trop quoi faire. Ça, c'est ça qui est arrivé aux États-Unis. Ben, le système de santé, là, c'est depuis 1910 que c'est vraiment mauvais, là. Mais la différence, c'est quand ton gouvernement lui-même s'engage à éliminer des vies pour sauver de l'argent. Quand c'est la politique du gouvernement lui-même, alors qu'à l'époque, il y avait un système à deux vitesses, il y avait les HMO, le truc privé, puis il y avait des gens qui ont des assurances, puis quelques hôpitaux, peu d'hôpitaux publics qui restent, il y allait là. T'sais. Mais c'est que si votre gouvernement s'engage dans une politique d'euthanasie, comme étant sa politique, c'est là où vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte à des choses aussi pires que le nazisme. Qui vont... Ça va être une couleur différente. Le fascisme a des couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là. Mais les conclusions, les conséquences sont les mêmes. Puis vous tuez quelqu'un parce que vous ne l'aimez pas, ou vous tuez quelqu'un parce que vous lui dites qu'il faut couper. Le problème est le même. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut qu'ils changent leurs arguments, c'est tout. Mais c'est ça, c'est que... Puis aussi, il faut garder en tête qu'aux États-Unis, il y a des gens maintenant qui proposent un système universel de santé. Là. Fait que... Puis ils ont un bon appui, tu sais. C'est des gens, quoi, dans le fond, avec qui Obama devait travailler, mais Obama est trop fou. Là. Il enseigne son truc, puis il faut couper. Alors, donc, c'est pas un... Le système universel, c'est pas quelque chose qui est étranger aux Américains. Même que LaRouche, quand il parle de solution, ben ça, il parle de revenir au système de 1946. Puis là, tes systèmes qui appelaient Halliburton, où là, c'était t'sais, une mobilisation pour vraiment aider les gens. Là. C'est ça la politique. Et de ramener ça, se débarrasser du secteur privé qui gobe de 15 à 35% de l'argent donné aux institutions privées va dans la bureaucratie. C'est même pas pour les soins. Puis le domaine public, c'est genre 2 ou 3% de ça. Fait que tu scrapes le privé, ramène Halliburton, puis amène le système qu'on appelle le single payer, c'est-à-dire le gouvernement qui paye. T'es en business. Si tu crées justement surcrées des emplois, des bons emplois dans ton économie, tu n'auras pas de problème à payer. T'sais. C'est tout. C'est une crise, ça coûte trop cher, mais c'est tout relatif. T'sais. Good.